Donald Trump exhorte Téhéran à capituler sans condition. Le président américain réunit son conseil de sécurité alors que le G7 a appelé à la désescalade dans la région. Une guerre entre Israël et l'Iran qui s'invite à l'Assemblée nationale. Les échanges ont été vifs la nuit dernière lors des questions au gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a notamment laissé entendre qu'une députée LFI était l'avocate du régime iranien. Ultime négociation au conclave sur les retraites. Les partenaires sociaux sont réunis autour du Premier ministre pour les dernières discussions autour de l'âge légal de départ. Il y a 85 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel à la BBC. Une cérémonie est prévue à 8h30 à la Croix de Lorraine à Nouméa. Le sport et un drame frôlé sur la Groupama Race. Rush Hour a chaviré dans la nuit de lundi à mardi. Fort heureusement, les 6 marins australiens sont sains et saufs. Ils ont été ramenés à terre grâce aux moyens de l'armée. Sur la course à présent, le monocoque néo-zélandais V5 est en tête. La météo en Nouvelle-Calédonie avec le maintien d'un régime d'averse faible sur la façade est, mais aussi la pointe sud et aux îles, alors que sur l'ouest, les nuages bas et les averses sont plus rares. Les températures maximales sont stables et restent comprises entre 23 et 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité internationale.
Oui, les États-Unis vont-ils s'impliquer dans le conflit entre Israël et l'Iran? La question se pose alors que Donald Trump dit vouloir une fin réelle de la guerre entamée il y a 5 jours maintenant, tout en précisant qu'il n'est pas d'humeur à négocier. Le président américain s'est rendu dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche, après son départ précipité du sommet du G7 au Canada. Donald Trump, qui s'est au préalable exprimé à bord d'Air Force One.
Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Gardez ça à l'esprit. L'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. C'est très simple, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire.
Qu'est-ce que vous entendez par « mieux qu'un cessez-le-feu » ?
Une fin réelle, pas un cessez-le-feu.
Une fin réelle comprenait donc la capitulation de la République islamique. Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, et même une capitulation sans condition, comme il l'a écrit en majuscule sur son réseau Truth Social. Le président américain a aussi ajouté que les États-Unis contrôlent désormais complètement et totalement l'espace aérien iranien. Nous savons exactement où se cache le soi-disant chef suprême de l'Iran. Nous n'allons pas l'éliminer, du moins pas pour l'instant, mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience s'épuise, conclut le milliardaire. Officiellement, les Américains restent toujours en retrait. Ils ont même proposé de nouvelles négociations avec Téhéran pour un cessez-le-feu. Mais depuis la nuit dernière, Donald Trump se montre de plus en plus agressif envers l'Iran, faisant penser que Washington pourrait intervenir très prochainement. Et puis, il y a tous ces mouvements militaires observés ces derniers jours. 2 destroyers américains sont désormais en Méditerranée orientale. Le porte-avions américain USS Nimitz est en route vers le Moyen-Orient. Et surtout, plusieurs bombardiers B-2, dont les bombes peuvent atteindre les bases nucléaires souterraines iraniennes, ont été redéployés sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien.
Et je le disais, Donald Trump réunit donc son Conseil de sécurité nationale après la réunion du G7 au Canada. Les 7 plus grandes puissances du monde qui ont évidemment évoqué cette guerre et la position commune va nettement moins loin que celle des États-Unis. Emmanuel Macron l'a rappelé lors d'une déclaration à la sortie de cette réunion du G7.
Ce G7 nous a en effet permis d'abord de consolider une position commune sur l'Iran, puisqu'un communiqué endossé par l'ensemble des membres du G7 a été publié, qui acte ce que d'ailleurs nous avions pu dire les uns et les autres ces derniers jours, c'est-à-dire notre volonté de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, qui en même temps a appelé à une désescalade dans la région et à ce qu'il y ait une stabilité au plus vite, à la protection des personnes civiles, et a également rappelé la nécessité d'avoir un cessez-le-feu à Gaza. Je pense que c'est un acquis de ce G7 sur une position commune.
Et cette guerre entre Israël et l'Iran s'invite également dans le débat politique français. Une grande partie des questions au gouvernement étaient dédiées la nuit dernière au sujet. Le ton est rapidement monté entre le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et la France insoumise. Alexis de La Fontaine a suivi ces échanges pour Europe 1.
Oui, les camarades de Jean-Luc Mélenchon continuent leur offensive anti-israélienne et au nom du groupe La France Insoumise, la députée Alma Dufour a défendu le régime iranien malgré les menaces qu'il représente.
L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier.
Le reste de la gauche est resté très mal à l'aise devant cette défense de l'ayatollah Khamenei. Jean-Noël Barrot, lui, refuse de laisser passer ses propos et accuse la France insoumise d'oublier les crimes du régime iranien.
Faut-il rappeler, madame la députée, que le régime iranien dispose de capacités nucléaires et balistiques susceptibles de toucher le territoire l'atrocité de l'attentat du 7 octobre suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie.
La situation s'est ensuite apaisée quand le ministre des Affaires étrangères a condamné le rôle d'Israël dans la bande de Gaza.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Une séance à l'Assemblée nationale marquée également par la suppression des ZFE, c'est-à-dire les zones à faibles émissions réservées aux véhicules les moins polluants dans les villes. Les députés ont en effet adopté le projet de loi dit de simplification dans lequel on retrouve cette mesure. Un projet de loi qui avait été préparé par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Mais depuis, il a été largement remanié, si bien que le groupe du parti présidentiel avait même pour consigne de voter contre Arthur Delaborde.
C'est un revers cinglant pour Emmanuel Macron. Le président voulait voir le projet de loi de simplification repoussé en dénonçant le détricotage de son bilan écologique. Mais le groupe macroniste n'a pas réussi à faire barrage au texte, au grand regret de la députée Renaissance Marie Lebec.
C'est devenu un fourre-tout, un projet disloqué et vidé de sa cohérence par les conséquences d'alliances contraires. C'est un texte qui fragilise ce que nous avons construit depuis 8 ans.
Mais les consignes de leur chef de file, Gabriel Attal, n'ont pas suffi. 14 députés Renaissance se sont abstenus, 8 ont voté pour. Dans le camp présidentiel, Horizon et le Modem ont, eux, défendu le texte. Résultat, les Républicains et le Rassemblement National sabrent le champagne. L'abandon des ZFE est leur cheval de bataille depuis des mois. La députée LR, Anne-Laure Blin.
Nous savons que les Français sont derrière nous. Vous savez, les gueux. Les gueux, ceux qui nous disent tout simplement qu'il faut arrêter cette machine infernale.
Mais la partie n'est pas encore terminée. Les versions du texte votées au Sénat et à l'Assemblée étant différentes, une commission mixte paritaire devra trancher à la rentrée sans garantie d'accord.
Arthur Delaborde pour Europe 1 et peut-être de la fumée blanche en vue. Le conclave sur les retraites voulu par le Premier ministre François Bayrou arrive à son terme après des dizaines et des dizaines d'heures de négociations entre les partenaires sociaux. Si l'âge de départ ne devrait pas bouger, un accord, lui, semblait en vue. Mais avant cet accord, le dialogue se tend. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Les partenaires sociaux discutent depuis 9h ce matin. Et pourtant, le patronat et les syndicats peinent à dégager un compromis. Les syndicats menacent de lever le camp. Ils estiment avoir fait un grand pas en actant à regret l'âge légal de départ à 64 ans. En échange, ils réclament un gros effort au patronat, mais en ordre dispersé. La CFTC ne signera que si l'âge de départ à taux plein, sans condition, baisse de 67 à 66 ans. De son côté, la CFDT demande que les salariés des métiers pénibles bénéficient d'un départ anticipé. La CPME et le MEDEF refusent d'en entendre parler et plaident pour un accès facilité à la prévention et aux reconversions. Officiellement, le dernier round de négociations devait prendre fin à 18h. Il devrait s'achever nettement plus tard, peut-être au milieu de la nuit.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. L'actualité en métropole en bref est une semaine après le meurtre d'une surveillante poignardée par un élève de 14 ans dans un collège de Nogent. Un enfant de 7 ans a été retrouvé avec un couteau dans une école de Mulhouse. Il aurait voulu se venger après une dispute avec un camarade. Une affaire prise au sérieux par l'académie, même si la présomption d'absence de discernement s'applique en raison de son très jeune âge. Il a donc simplement été rappelé à l'ordre par ses parents devant les gendarmes.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, tout d'abord, qui concerne cette actualité internationale très dense. 67% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les États-Unis doivent s'engager militairement dans la guerre contre l'Iran. Ils sont 33% à être d'un avis contraire. Voici maintenant notre question du jour. 85 ans après, est-il toujours important, selon vous, de commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, jeudi, pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 6h, passé de 40 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va revenir sur cet appel du 18 juin après la pause avec la cérémonie qui s'est déroulée hier à Païta. Et puis on reviendra également sur cet épisode de surmortalité de poissons à Yaté. C'était fin mai.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Simac Quincaillerie, c'est le mois des papas. La meuleuse Makita 125 mm est vendue 9400 francs. Offre valable du 1er au 30 juin, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur Facebook et sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Cataviti. Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, loisirs créatifs et librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 7 au 21 juin 2025.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Chez Cheval Distribution, pour l'achat d'un sac Royal Canin Chien Maxi ou Medium Adulte 15 kg, 3 kg offerts. Royal Canin Chat Fit 10 kg, 2 kg offerts. Et pour votre chat stérilisé, 4 kg achetés égal, 2 couches stérilisées offerts. Offre jusqu'au 29 juin dans votre magasin.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et je le disais, donc tout à l'heure, nous commémorons aujourd'hui l'appel du 18 juin. Il y a 85 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle a lancé son appel sur la BBC à Londres. Comme à l'accoutumée, une cérémonie était organisée hier à Païta, notamment en présence de la maire de la commune, Marilyn D'Arcangelo, et de Catherine Merckx, la commissaire déléguée en province sud. Et parmi les anciens combattants et leurs représentants, Michel Mourguet, le délégué de la Fondation de la France Libre en Nouvelle-Calédonie, il a d'ailleurs lu une partie de cet appel du général de Gaulle.
Évidemment, pour moi, c'est capital, et en particulier l'appel du 18 juin, parce que, à travers les mots, ça transfère, comme disait le général, une certaine idée de la France. C'est pas parce qu'on a été battu qu'on est forcément vaincu, et que la soumission, l'obéissance, le conformisme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour une grande nation. Et il a même dit un jour à Winston Churchill, avec qui il s'engueulait régulièrement, il a dit « Désormais, monsieur le Premier ministre, quand vous voudrez parler à la France, vous vous adresserez à ma personne ». C'est ça l'esprit du 18 juin. C'est à un moment être capable de se lever, avoir la capacité, la faculté de pouvoir, de savoir dire non, sans tenir compte des conséquences que ça peut infliger, ce non-là, pour la grandeur du bien commun.
Et aujourd'hui, d'autres cérémonies seront organisées sur le territoire, et notamment à Nouméa, à 8h30, à la Croix de Lorraine. L'actualité judiciaire à présent est un procès encore une fois reporté. Trois hommes comparaissaient hier au tribunal de Nouméa pour leur implication dans les faits de violence survenus dans la nuit du 8 au 9 mars. C'était au 1881 à Nouville, Léana Colombo.
Oui, une bagarre générale avait éclaté ce soir-là, impliquant entre 300 et 400 personnes et faisant au moins 11 blessés, dont 2 graves. Le travail d'enquête de la police a permis d'interpeller 4 hommes, dont 3 majeurs. Ils sont âgés de 23, 25 et 28 ans et devaient être jugés initialement le 11 avril. Le procès a ensuite été reporté à hier. Il se tiendra finalement le 10 février 2026. N'ayant pas d'antécédents judiciaires, ils sont maintenus sous contrôle judiciaire. Ils ont, en attendant le procès, interdiction de porter ou détenir une arme, de se rendre à proximité du 1881 à Nouville et d'entrer en contact avec les plaignants et les autres prévenus.
Et puis je rappelle que l'auteur de 3 coups de feu ce week-end à Païta a été placé en garde à vue en début de semaine. Les faits remontent à vendredi. Il a tiré en direction d'un groupe de jeunes aux stations Shell et Mobil au village. Âgé de 39 ans, il a justifié son geste par la nécessité de protéger la station. Il sera donc convoqué au tribunal le 17 décembre prochain dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violence avec arme, mais aussi le port d'une arme sans motif légitime. Et puis, je le disais tout à l'heure, on en sait un peu plus sur le phénomène de surmortalité de poissons observés dans le Grand Sud. La forte marée basse et les précipitations de la semaine précédente seraient en cause, Léana Colombo.
Le 26 mai, des milliers de sardines flottaient, mortes, à la surface de l'eau, au niveau de l'embouchure de l'Ayaté. Un phénomène qui avait inquiété les habitants, notamment ceux de la tribu de Wao, située non loin. La province sud, en charge de l'environnement, est intervenue pour réaliser des prélèvements et analyser la composition des poissons et de l'eau. Sur place, aucune pollution ni anomalie significative n'a été constatée, peut-on lire dans un rapport du service de gestion et de préservation des ressources. En revanche, les conditions météo auraient favorisé cet épisode de surmortalité, comme le détaille Bastien Morvan, directeur adjoint de la 3DT, la Direction du Développement Durable des Territoires.
Effectivement, les résultats qui ont été obtenus par le biais de ces prélèvements n'ont pas conduit à pouvoir conclure au fait qu'il y avait une origine, une pollution particulière qui avait eu lieu liée à l'activité humaine, mais plutôt un phénomène climatique qui se serait conjugué à un épisode de grande marée basse. Et à ça s'ajoute, sur la semaine précédente, le 26 mai, de fortes précipitations sur la région d'Yaté, donc autrement dit un fort apport en eau douce. Et les deux conjugués ont conduit finalement à un abaissement du taux d'oxygène dissous dans l'eau. Et ce qui peut provoquer chez ce type d'espèces, les sardines, un stress intense et une mortalité brutale.
La province sud ne réalisera donc pas plus d'analyses. La mairie de Yatay a quant à elle décidé de maintenir l'interdiction de baignade dans la région jusqu'à nouvel ordre.
Radio Rythme Bleu, il est 6h45, on vous souhaite un bon début de journée.
À Dimbéa maintenant, un point d'accueil unique et pratique pour faciliter les démarches de la Calédonienne des Eaux, mais aussi d'Enercal. Depuis lundi, les usagers proches de l'agence Enercal à Coutiou ont pu constater l'apparition d'un guichet dédié à l'accueil des clients de la CDE Léana.
Et environ 500 personnes se rendent chaque jour dans cette agence de Coutiou. Ce nouveau guichet permettra au plus grand nombre de réaliser ses demandes et démarches concernant l'abonnement eau potable ou encore d'être accompagné dans la gestion de leurs contrats et de leurs facturations. Ce lieu unique pour effectuer ces démarches d'électricité et d'eau est une solution plus pratique pour les clients, mais aussi plus économique. Pour autant, il ne faut pas oublier le lien social essentiel pour les Calédoniens, explique le directeur général d'Enercal, Jean-Gabriel Fagé.
On assiste à des mouvements de notre clientèle qui se digitalise aussi, qui fait plus appel à l'Internet, à la téléphonie, mais effectivement, toujours des clients qui ont besoin d'être rassurés par un conseiller clientèle. Et donc, une implantation physique est incontournable. Donc, on maintient évidemment notre implantation au plus près des clients sur la commune. Et encore une fois, avec cette capacité d'accueil supplémentaire pour rendre des services aux Dimbéens.
Cette initiative favorise également la redynamisation du centre de Dimbéa qui avait beaucoup souffert des exactions de l'année dernière, souligne le maire de la commune, Johan Lecourieux.
C'est une excellente nouvelle. On a le cinéma, on a des commerces, on a des restaurants qui ouvrent. Là, maintenant, on a des services de public de proximité avec l'eau, l'électricité. Donc, pour l'ensemble des Dimbéens, c'est très agréable d'avoir le cœur de ville, le cœur de Dimbéa qui revit petit à petit. Et donc, la prochaine étape, ce sera l'arrivée du siège social du FSH d'ici quelques mois. Donc, on aura vraiment maintenant une vraie activité qui permet de revivre pleinement au cœur de Dimbéa.
Ce partenariat entre Enercal et la CDE a déjà été réalisé auparavant. Les clients de La Foy et de Boulou Paris bénéficient déjà de ce type de proposition, indique Luc Bourgade, directeur général de la Calédonienne des Eaux.
On n'en est pas à notre coup d'essai, puisque avec Enercal, on avait déjà mutualisé l'agence de La Foy, où on avait été accueilli par Enercal et où on avait ouvert un guichet de la Calédonienne des Eaux. On a aussi fait ça avec l'OPT et à Boulou Paris, où maintenant sont accueillis à la fois l'eau et l'électricité aussi, l'énergie. Donc voilà, c'est un mouvement qui s'installe maintenant dans les habitudes de pouvoir travailler collectivement entre les différents services publics. C'est l'objectif de petit à petit, en profitant soit d'opportunités, soit de relations particulières entre les dirigeants, de pouvoir avancer dans cette mutualisation des infrastructures sur les services publics.
D'autres initiatives de ce type devraient prochainement voir le jour dans d'autres communes.
Et avant de refermer cette page, un rendez-vous sur notre antenne. Ce n'est pas une surprise, en l'absence de perspective, la Nouvelle-Calédonie demeure confrontée à un climat économique très dégradé. C'est ce que note d'ailleurs l'IOM dans sa note de conjoncture du premier trimestre 2025. Eh bien, nous en parlerons ce matin avec le directeur général de l'IOM, Fabrice Dufresne, qui sera notre invité à 7h30. L'occasion de scruter avec lui également quelques indicateurs qui permettent de jauger de l'état de santé économique du territoire. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30. Il est 6h passé de 49 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et on prendra évidemment des nouvelles de la New Caledonia Groupama Race avec ce qui aurait pu être un drame hier. C'est Rush Hour qui s'est retourné. On en parlera évidemment dans la page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Retour de la danse sur la scène du Théâtre de Lille. Danse contemporaine, hip-hop énergique et poétique. 6 ans après une première venue, la compagnie Pyramide danse sous le poids des plumes, mêlant théâtre gestuel, mime et burlesque. De Rochefort à Nouméa, l'une des grandes compagnies de danse urbaine a rendez-vous avec vous. Samedi 21 et dimanche 22 juin à 18h, réservation sur ticket.nc.
Chers amis golfeurs, la dernière qualification pour la finale de la Somme Bay World Cup Nouvelle-Calédonie se tiendra au golf de la Wengi ce samedi 21 juin en formule Stableford. Alors ne manquez pas cette dernière opportunité et inscrivez-vous par mail à golf.wengi@lagoon.nc.
Du 18 au 22 juin, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Caféry. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur un rayon différent ou sur nos produits Auchan. 5 jours, 5% de cagnottage en plus, waouh, ça vaut vraiment le coup. Détails de l'offre à retrouver sur les pages Facebook des magasins Auchan. Le bon, moins cher.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB.
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser 100 millions. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bon d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on parle évidemment de voile avec ce tour de la Nouvelle-Calédonie, sans escale et sans assistance. Et V5 est toujours en tête de la New Caledonia Group à Mareis. Le monocoque néo-zélandais devance Pulpito et Guilty. V5 qui a donc pris les commandes de la course hier après le dessalage de Rush Hour qui était en tête de cette New Caledonia Group à Mareis. Heureusement, les 6 Australiens à son bord ont été retrouvés sains et saufs et ramenés sur la terre ferme hier matin. L'opération de sauvetage aura tout de même duré plus de 10 heures, Léana Colombo.
Oui, mais les circonstances dans lesquelles le catamaran s'est retourné sont encore floues. En pleine nuit, vers 1h du matin, alors que le bateau file à vive allure sur les eaux mouvementées du Grand Nord, il est probable qu'une rafale de vent plus forte que les autres ait provoqué le basculement de la coque. C'est alors la réaction très vive des membres de l'équipage qui leur permet de s'en sortir, comme le directeur du cercle nautique calédonien Tugdual Piriou en fait le récit.
Ils ont été surtout surpris de la vitesse à laquelle le bateau s'est retourné. C'est assez rarement le cas. Ils se sont retrouvés à l'envers très vite. Avec ceux qui étaient sur le pont, se sont retrouvés à l'envers sur le pont, donc dans l'eau. Et ceux qui se reposaient à l'intérieur se retrouvaient dans le noir avec de l'eau qui monte. Et le toit qui était devenu le plancher. Alors ils sont entraînés. C'était un équipage de gens aguerris. Donc ils ont des procédures qui travaillent de sécurité. Ils avaient une trappe qui est faite exprès. Les catamarans ont des trappes qui sont au sol habituellement, et quand le bateau est à l'envers, la trappe devient la porte de secours vers la sortie. Et ils ont pu se repérer dans le noir total, dans l'eau, avec des poches d'air quand même dans le bateau, pour ouvrir cette trappe pour ceux qui étaient à l'intérieur et sortir. Mais j'aurais pas aimé être à leur place. Il a fallu beaucoup de temps pour nous rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas de blessés ou de blessés fortement.
Vers 8h du matin, les membres de l'équipage ont tous été retrouvés sains et saufs, debout sur la coque retournée du Rush Hour. Ils ont ensuite été élitreillés par le puma des Fanques. Plus de peur que de mal, même si dans une zone aussi éloignée des côtes, l'opération de sauvetage pilotée par le Centre de coordination de sauvetage maritime de Nouvelle-Calédonie n'a pas été de tout repos. Nicolas Chaumard est le directeur du COSNC.
Oui, donc en fait, le COS, vers 1h15 du matin, vers 1h15, a reçu d'abord des émissions de balises de détresse. Ensuite, il y a tout un travail d'investigation qui a été mené, d'analyse. On a essayé de contacter pendant quelques heures le bateau qui ne répondait plus, qui n'émettait plus non plus son tracking AIS ni satellitaire. On a considéré qu'il s'était passé quelque chose et c'est à partir du moment-là qu'on a, le COS, coordonnant les moyens, décidé d'engager un avion de la Marine nationale, celui des Forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui est arrivé sur zone vers 8h. En parallèle, le voilier Romance de la course avait également été dérouté pour se rendre sur les lieux du sinistre, là où les balises émettaient également. Et après une heure et demie, où le gardien était en survol au-dessus des naufragés qui étaient sur la coque, on a pu avoir la confirmation qu'on avait bien les 6 personnes qui étaient à bord. Et enfin, la dernière étape d'opération a été l'engagement de Puma. Ils ont permis de récupérer sains et saufs et en bonne santé les 6 naufragés vers midi à peu près, et d'être déposé sur la terre ferme vers 1h-10.
Une opération de sauvetage qui n'aurait pas été possible sans l'aide d'un autre bateau en course, le Romance, qui s'est dérouté pour porter assistance au Rush Hour. Appelé à l'aide vers 5h du matin, l'équipage du Romance arrive au niveau du bateau retourné vers 10h et lui lance une VHF qui permet alors aux naufragés d'entrer en contact avec les équipes du COS et des FANC. Le Romance aura en tout été mobilisé au moins 7h, un temps qui devrait être décompté de son temps de course, comme l'explique Philippe Mazard, président du jury de la Groupe Amaris.
Alors il y a une règle fondamentale dans les règles de course à la voile qui est d'apporter toute assistance à un bateau en danger. Ça a été le cas et Romance, qui a été contacté, l'a fait immédiatement. Et donc le comité de course va déposer une requête auprès du jury pour demander une réparation en temps pour le temps qu'a passé Romance à porter assistance à Rush Hour. Et le jury va statuer en fonction des données que fournira le comité de course pour diminuer le temps de course de Romance, du temps qu'il aura passé à porter assistance.
Après avoir été électrocutés en pleine mer, les six Australiens ont été évacués vers Kumak pour être ensuite transférés à Tontuta. Ils sont actuellement sains et saufs à Nouméa. Quant à leur catamaran, il est pour l'instant laissé à la dérive. Le COS a pris soin de disposer sur sa coque des flashlights pour qu'ils soient visibles des autres navigateurs, même de nuit.
Et l'organisation qui donne aussi des nouvelles de Too Far Out, qui a abandonné en raison d'un problème de spi. Le bateau devrait de nouveau faire route par la côte est vers Nouméa dans la journée.
Plus de peur que de mal, et là on est à l'abri, on est posé. On est à l'ancre posé à côté de Balade, voilà, la fameuse ligne de Balade, qu'on aurait aimé ne pas voir d'aussi près. On va repartir demain et l'objectif c'est d'essayer d'arriver avant les 5.
L'équipage Too Far Out, donc joint par le PC de course. Le sport ce matin, c'est aussi du football et l'équipe de France Espoir qui rencontre la Pologne à l'Euro. Les Bleus se sont imposés 4-1 grâce notamment à un doublé du Rennais Djaoui Cissé après l'ouverture du score par Nathan Zézé. La France qui est deuxième du groupe C, la Pologne pointe à la dernière place de cette poule. En bref, en tennis, des Français participent à des tournois de l'ATP à la Halle. Denis Shapovalov a sorti Hugo Humbert de 7-1 sur un ATP 500. Même type de tournoi au Queens pour Giovanni Empecci-Peric qui a été battu par Brandon Nakashima. En revanche, on signalera cet exploit d'Arthur Rinderknecht qui a sorti Ben Shelton, tête de série numéro 6 du tournoi. Et puis chez les dames, élimination de Léolia Jean-Jean battue par Sonek Hartal à Nottingham.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Allez, les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin le ciel sera souvent très nuageux et de faibles averses se déclenchant par endroits. Ce sera sur l'est, l'extrême sud et au Loyauté. Ailleurs, le temps sera sec. L'Alizé orienté est-sud-est pour ce matin autour des 15 à 20 nœuds et localement 10 à 15 nœuds. Ce sera sur l'ouest. Cet après-midi, maintien d'un régime d'averses faibles sur la façade est, la pointe sud et aux îles, alors que sur l'ouest, les nuages bas et les averses seront plus rares. Le vent de secteur est pour cet après-midi, compris entre 10 et 15 nœuds en général, localement 15 à 20 nœuds aux pointes de la Grande Terre et au Loyauté, la côte ouest sera privilégié, mis à part des accélérations en sortie des vallées. Les températures maximales sont stables, elles sont comprises aujourd'hui entre 23 et 27 degrés.